Nous c'est parti, vous entrez dans le 18-20 de France Inter, installez-vous, bienvenue sur la planète et sa banlieue. C'est avec vous que ça commence, comme tous les jours, avec le journal. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi commence avec des noms d'oiseaux de part et d'autre des Alpes.
Oui, l'entente n'est plus du tout cordiale entre la France et l'Italie. Le nouveau gouvernement à Rome souhaite ouvertement la chute d'Emmanuel Macron. Paris répond. Un gouvernement sous les critiques des Gilets jaunes et quand l'une des membres, Marlène Schiappa, s'investit dans le grand débat national, les attaques pleuvent. Le maire de Grande-Synthe, lui, poursuit l'État français pour inaction climatique. Sa ville du Nord est menacée par le réchauffement de la planète. La dernière série télé de France 2, un thriller dans un orchestre philharmonique, Paris risqué. Alors la petite sœur France Musique a donné un coup de main à la baguette. De la neige encore dans le centre et le nord-est, météo à venir à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, on s'intéresse à cette rencontre entre Poutine et Erdogan ce soir au sujet de la Syrie. Qui influence l'autre et inversement, qu'est-ce qui se passe désormais entre ces deux-là maintenant que les États-Unis se désengagent? On y viendra avec le premier invité ce soir. Nous sommes au Chili en reportage, le centre du pays victime d'une pollution par les usines qui font aussi vivre cette région. Et puis 19h20, le téléphone sonne, on est dans la cybercriminalité. Ce soir, on nous promet un cyber Pearl Harbor, on va plutôt s'intéresser à nos boîtes mail. Peut-on aujourd'hui échapper aux pirates? Vous avez forcément une adresse, un téléphone, une page Facebook, peut-être. Peut-on se protéger? Comment? Que risquent réellement nos données, nos photos, nos comptes? Dites-nous ce qui vous inquiète, on vous aide à naviguer entre les pirates. 01 45 24 7000.
France Inter.
Avis de tempête donc entre la France et l'Italie.
Rarement les relations ont été aussi glaciales des deux côtés des Alpes. Les dirigeants italiens multiplient les attaques contre Emmanuel Macron. Soutien franc et ouvert aux gilets jaunes. D'abord, critique sur la politique migratoire. Et puis hier, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dit espérer que le peuple français se libère bientôt, je le cite, d'un très mauvais président. Paris a répondu ce matin. Écoutez la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, quand on lui demande s'il y aura des représailles de la France.
En France, on a une expression qui dit que ce qui est excessif est insignifiant. Et donc quand des propos sont excessifs à la fois par leur ton et par leur nombre, ils deviennent insignifiants. Vous parlez de mesures de rétorsion. Ma réponse, c'est que notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Nous avons beaucoup de choses à faire avec un voisin important qui est l'Italie. Nous voulons continuer à pouvoir travailler. Est-ce que pour autant le climat permet toutes les visites ministérielles, comme si de rien n'était? Je me rendrai en Italie quand le climat sera apaisé.
Alors voilà pour Nathalie Loiseau. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Jamais le ton n'avait été aussi tendu entre Paris et Rome, entre ces deux piliers de l'Union Européenne. C'est l'escalade verbale.
Ouais, l'escalade depuis maintenant plusieurs mois. Emmanuel Macron insulte les Italiens. Ce donneur de leçons devrait se taire. Le plus vite il quittera le pouvoir, le mieux ce sera. Matteo Salvini, qui, vous l'avez dit, appelle carrément les électeurs français à se débarrasser de leur président. Ingérence inédite, quoique logique. Le match entre Macron, le progressiste, et Salvini, le nationaliste, se tend à mesure qu'approche l'échéance européenne du 26 mai. Pour l'instant, Paris semble vouloir calmer les jeux. Dans un premier temps, ce matin, la porte-parole du Quai d'Orsay a dénoncé des propos inacceptables, mais quelques minutes plus tard, on vient de l'entendre, la ministre des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau, a préféré le mépris à la dénonciation. Surtout, ne pas surréagir au coup de menton de Salvini, destiné d'abord à la scène politique intérieure. Luigi Di Maio, l'autre homme fort du gouvernement, pilonne lui aussi Emmanuel Macron, la Ligue contre les 5 étoiles, match italo-italien qui avive les tensions entre Paris et Rome, au risque de déclencher une véritable crise diplomatique.
Merci beaucoup Louise Baudet. Emmanuel Macron attaqué sur la scène européenne, donc ses ministres, eux, ciblés à l'intérieur de nos frontières. Marlène Schiappa déchaîne les passions depuis l'annonce du débat télévisé qu'elle va co-animer avec Cyril Hanouna pour le grand débat national. Critique et même dérapage parfois, celui du maire LR de Nice. Ce matin, Christian Estrosi lançait, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Madame Schiappa irait. Fermez les guillemets. Il s'est excusé dans un tweet peu après, mais Yael Gauss, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
La secrétaire d'État fait partie des cibles préférées de l'opposition.
Ah oui, et c'était Hard aussi hier chez les sénateurs. Marlène Schiappa attaquée par les élus LR pour cette collaboration avec Cyril Hanouna.
Les Français ne seraient-ils pas assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission, ce talk show pour le moins surprenant?
Je vais essayer de vous répondre sur le même ton.
Faites dans la modération pour une fois, hein.
Le petit rire, la voix du modérateur, vous entendez qu'il attaque, c'est celle de Gérard Larcher, le président du Sénat. Un acharnement inédit et sexiste dénoncé par son entourage. Le gouvernement fait bloc, à l'image de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
C'est très bien qu'on puisse aller parler aux téléspectateurs de l'émission de Cyril Hanouna. C'est très bien qu'on puisse aller sur différents formats. Ce débat, il n'y a pas dans la République de lieu interdit pour débattre. Il ne faut pas en avoir peur.
La disruptive Marlène Schiappa, soutenue dans sa démarche par le président avec qui elle a échangé hier soir, allait répondre là où le public exprime sa défiance envers les politiques. Marlène Schiappa ou l'art de casser les codes, à l'instar de son collègue Mounir Majoubi, qui continue tous les jours à échanger sur les réseaux sociaux avec Maxime Nicole, alias Flyrider. L'art du buzz, diront ses détracteurs. Une vraie politique au combat, disent ses proches, incontrôlable quand elle prône le retour de l'ISF, par exemple, début décembre, et boulimique d'écriture, une et indivisible, son plaidoyer pour la République qui sortira en mars.
Merci, Yael Gauze. Lutter contre la violence et les débordements dans les manifestations également des Gilets jaunes, avec des blessés graves des deux côtés, manifestants et forces de l'ordre. La proposition de loi anti-casseurs écrite par la droite LR, passée aujourd'hui en commission, proposition soutenue par le gouvernement à condition de sérieuses corrections. L'esprit, c'est d'éradiquer les fauteurs de troubles comme les hooligans des stades de foot. Karine Bécard, on vous rejoint à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Le texte est en cours de réécriture, mais ça pourrait ne pas suffire pour mettre d'accord la majorité, Karine.
Eh bien oui, pourtant le gouvernement a accepté aujourd'hui de céder sur l'article 1er, autrement dit sur la question du périmètre de protection aux abords des manifestations. Pour l'instant, cet article a été supprimé. Le gouvernement s'est engagé à le retravailler. Satisfaction du député de la majorité, Sacha Houlier.
On n'est pas d'accord avec le groupe Les Républicains du Sénat. Ça n'est une découverte pour personne. Et donc le texte, il avait à être réécrit sur certaines formes. En quelques mots, c'était la proposition Retailleau-Retailler.
Donc, difficulté, vous l'entendez, pour certains députés de La République En Marche, de reprendre une proposition de loi qui vient de la droite. Et certains vont même plus loin, comme Paola Forteza, qui demande aussi la suppression des articles 2 et 3. C'est-à-dire qui ne veut pas que les préfets, notamment, aient la possibilité d'interdire de manifester et qui ne veut pas non plus de nouveaux fichiers pour recenser ceux qui viendraient casser. Et la députée Paola Forteza, eh bien, n'est pas toute seule à défendre ces deux idées.
J'ai proposé à co-signature mon amendement, j'ai eu une quarantaine de soutiens. Nous n'avons pas encore eu beaucoup le temps de discuter de ce texte en interne, donc ça va se faire dans les prochaines semaines. Donc on pourra voir plus précisément quel est l'équilibre au sein du groupe sur ce sujet.
Donc une quarantaine de signatures déjà, peut-être plus, certes sur 300 députés, mais étrangement toute la majorité, dans le contexte particulier dans lequel le gouvernement se trouve aujourd'hui, toute la majorité n'est pas décidée à jouer la carte de la solidarité.
Karine Bécard en direct de l'Assemblée nationale. La proposition de loi anti-casseurs sera examinée dans l'hémicycle mardi et mercredi prochain. Emmanuel Macron, pour sa part, se rend demain dans la Drôme pour une troisième rencontre avec des élus de terrain. Il verra également Laurent Wauquiez, le patron des Républicains.
Un maire porte plainte contre l'État à Grande-Synthe.
Dans le Nord, Damien Carême engage un recours contre l'État pour non-respect de ses engagements climatiques. Cette initiative est une première en France. Des ONG ont eu la même idée, c'est la pétition L'affaire du siècle, plus de 2 millions de signatures au compteur ce soir. Damien Carême, lui, est passé à la vitesse supérieure. Sandy Dauphin, il saisit le Conseil d'État.
Et oui, le maire Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe avait déposé un recours gracieux en novembre contre l'État. Il n'a, dit-il, reçu aucune réponse. Damien Carême passe donc à l'étape suivante, Conseil d'État.
Je reproche à l'État de ne pas s'impliquer, de ne pas prendre les mesures nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique qui a des conséquences, moi pour ma commune, parce que le niveau de la mer augmente, j'ai le risque de submersion marine des communes de l'agglo et la mienne en particulier dans les décennies qui viennent. Il y a un moment, il faut passer aux actes.
La ville de Grande-Synthe est un laboratoire de la transition écologique, prime à la mobilité, aide locale pour isoler les logements, transport public gratuit, agriculture bio, et l'État est le maillon faible, estime le maire.
La prime à la mobilité, elle a été instaurée en juin l'année dernière. On est à 1000 primes attribuées aux habitants de la ville. Il joue le jeu et celui qui manque à l'appel, c'est l'État quoi dans tout cela. Et il n'est pas suffisamment là. Il met simplement une taxe carbone sur le diesel, punitive. Et moi, l'écologie, pour moi, chez moi, elle est joyeuse. Elle est absolument pas punitive.
Le maire de Grande-Synthe ne voit pas pourquoi la justice française ne lui donnerait pas raison. Comme aux Pays-Bas, en septembre 2015, 900 Néerlandais ont fait condamner leur État à réduire de 25% ses émissions de CO2 d'ici 2020.
Merci Sandy Dauphin, notre spécialiste environnement à France Inter. Les classes de CP dédoublées ont des premiers résultats encourageant, selon une première évaluation du ministère. Ces groupes où il y a deux fois moins d'élèves devant un enseignant dans les quartiers défavorisés, ces groupes font baisser le nombre d'élèves en grande difficulté de près de 8% en français, de 12,5% en maths. Le test en CP doit être étendu au CE1 des quartiers défavorisés à la rentrée prochaine pour bénéficier à 300 000 élèves en tout. Les Chinois se retirent de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Les actionnaires du site privatisé il y a 4 ans cherchent à revendre leur part. Et ce n'est pas un cas isolé. Fabien Cazot, vous allez nous expliquer. Les investisseurs chinois ont beaucoup acheté ces dernières années. Ils commencent à revendre pour en tirer les bénéfices, c'est ça,
Fabien ? Oui, l'exemple de l'aéroport Toulouse-Blagnac est assez éloquent. L'investissement du consortium chinois représentait 192 millions d'euros il y a 4 ans. La vente, quand elle sera finalisée, se chiffrera aux alentours de 500 millions d'euros. Ça fait quand même une belle plus-value. Surtout qu'entre-temps, les Chinois ont empoché des dividendes puisqu'ils étaient actionnaires à 49,99% de l'aéroport, dividende estimé à 50 millions d'euros au total depuis 2015. La France paye des bonnes affaires pour les investisseurs chinois. Ça ne se limite pas à l'aéronautique, il y a aussi les terres agricoles, les domaines viticoles. Là aussi, stratégie achat-vente, première acquisition d'un domaine à quelques millions d'euros, puis d'un deuxième jusqu'à 10 fois plus cher grâce à la plus-value réalisée sur le premier. C'est comme ça que certains très grands crus des domaines valorisés à plus de 100 millions d'euros finissent par devenir chinois. On pourrait prendre d'autres exemples dans l'industrie, la pharmacie ou l'énergie, des stratégies d'investissement souvent agressives vues de France, mais qui, pour les investisseurs chinois, s'avèrent toujours rentables.
Fabien Cazot, chef du service économie, merci. Les chances de retrouver le footballeur Emiliano Sala sont très minces ce soir, disent les autorités. Son avion a disparu au-dessus de la Manche lundi. Il quittait Nantes pour rejoindre son nouveau club Cardiff. Sala était seul avec le pilote dans l'appareil, un petit monomoteur. Ses derniers messages montrent qu'il n'était pas du tout serein à bord. « Je suis dans l'avion », écrit-il. On dirait qu'il va tomber en morceaux. Il porte quasiment le même nom et lui aussi a disparu. Mohamed Salah, disparition des réseaux sociaux cette fois. Ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, qui comptent des millions d'abonnés, sont devenus indisponibles. On ne connaît pas encore la raison de cette disparition numérique du footballeur star de l'Égypte et du club de Liverpool en Angleterre. Du foot encore, l'Italien Mario Balotelli arrive à Marseille. L'attaquant libéré de Nice vient de signer, c'est officiel, avec l'OM. Super Mario ne pourra toutefois pas débuter dès vendredi pour le prochain match de Ligue 1. Conditions physiques un peu justes, selon l'entraîneur Rudy Garcia. Le rappeur Chris Brown est sorti de garde à vue hier soir à Paris sans faire l'objet de poursuites. Il conteste toute relation sexuelle avec la jeune femme qui a porté plainte contre lui pour viol dans sa chambre d'hôtel d'un palace de la capitale. Le parquet de Paris poursuit toutefois les investigations dans cette affaire. Une comédie et un drame familial favori des Césars. Le Grand Bain de Gilles Lelouch et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand sont nommés chacun dans 10 catégories pour les Césars, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur. Tous les nommés sont à retrouver sur franceinter.fr. Et puis terminons pas avec du cinéma, mais à la télé ce soir, France 2 a fait un choix inédit pour sa nouvelle série. Pas de flic, pas de médecin, pas d'avocat. Non, dans Philharmonia, le thriller psychologique se joue dans la fosse d'un orchestre. Pari osé pour France Télévisions qui a eu le soutien de la radio France Musique. Les précisions d'Alexandra Akoun.
Une coopération qui a débuté dès l'écriture du scénario. La productrice Rose Brandford-Griffiths et les deux scénaristes de Philharmonia, Marine Gassem et Clara Bourreau, prennent contact avec Marc Vancher. Le directeur de France Musique les embarque alors à la découverte de l'orchestre philharmonique de Radio France.
On arrive à l'auditorium, il y avait le philhar au grand complet. Et j'ai vu trois nanas complètement gaga de ce qu'elles voyaient. Après, on leur a ouvert la porte. Hein. Elles sont beaucoup venues renifler la coulisse. Et donc, par petites touches, tout au long de la série, on voit cette coulisse. Et puis, la question de la cohésion. Il y a un chef. Et puis là, c'est une femme.
Tu crois qu'elle sait qu'on a tous voté contre elle ?
Elle va vite s'en rendre compte, Adiva.
Ça, les musiciens, ils s'y sont pas encore trop habitués.
Cette femme dans la série, c'est le maestro Hélène Barizet, qu'on aperçoit à plusieurs reprises au micro de Frédéric Lodéon.
Ah, Frédéric Lodéon, c'est le patron.
Un rôle savamment travaillé par la comédienne Marie-Sophie Ferdan, avec la complicité de Christophe Dillis. Il est attaché de production en France Musique et surtout jeune chef d'orchestre.
Une fois qu'on a vu la chorégraphie un petit peu obligatoire des gestes pour faire un 4-4, un 3-4, il a fallu vraiment pratiquer.
C'est très bien, on va travailler ça. Reprenons du début.
Il y a une scène où Marie-Sophie dirige l'ouverture des Noces de Figaro. Et ça a été vraiment assez facile en fait, parce qu'elle c'est aussi une grosse bosseuse.
Et le résultat est parfaitement crédible.
Philharmonia sur France 2 ce soir, épisode 1 et 2, c'est à 21h.
Tacatacatacatacatacatam pour les
Noces
de Figaro.
Vous le faites pas mal.
C'est facile. Allez, à tout à l'heure, Amélie, sous les radars.
Oui, sous les radars ce soir, comment le parti d'extrême droite espagnol Vox a été fondé et financé par la diaspora iranienne, oui. Les Tonga, eux, sont privés d'internet. Une tempête a endommagé l'unique câble reliant l'archipel au web. Et puis une croisière avec les platistes, vous savez ce que c'est?
Ouais.
Ceux qui croient que la Terre est plate, ils ont l'intention de le montrer en allant voir au bout du bout.
Enfin, attention à pas tomber. Donc, allez, à tout à l'heure autour de 18h37, Amélie.